France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. En direct, vous l'avez entendu, des rendez-vous de l'histoire de Blois. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et désormais à la tête du magazine L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui, bien sûr, sur la renomination de Sébastien Lecornu hier soir à Matignon, une nomination par Emmanuel Macron. Et puis pour le débat, nous recevrons un de nos très grands historiens, professeur au Collège de France et directeur d'études à l'EHESS, spécialiste des Lumières et de l'histoire culturelle du XVIIIe siècle. Il signe avec L'illusion d'un monde en commun aux éditions Flammarion, un livre original et fascinant sur la découverte de l'Europe par des Tahitiens embarqués sur les navires de Cook ou de Bougainville. Comment les Lumières ont-elles accueilli cette altérité culturelle? En quoi cette rencontre nous permet-elle d'en savoir plus sur nous et sur notre histoire? Nous poserons ces questions à l'historien Antoine Lilti, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Negaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Un plaisir de vous retrouver à Blois. Avant de plonger dans notre vie politique pour le moins agitée, je vous propose de prendre un instant la direction du Proche-Orient.
Le plus important, c'est que les otages vont être libérés. Ce sera probablement lundi. Ils sont dans une situation terrible, détenus dans des souterrains profonds, et on pense qu'ils seront tous de retour lundi. Et cela inclura les corps de ceux qui sont morts. Ils sont au nombre de 28. Ils seront de retour aussi, mais malheureusement morts.
À deux jours de la probable libération des otages israéliens encore détenus à Gaza, Trump, le faiseur de paix, bon, pas au point d'avoir le prix Nobel de la paix, Israël, se prépare à l'accueil des otages. Et du côté palestinien, on se prend à rêver de ne plus vivre sous les bombes. Alors, doit-on y croire? Doit-on croire à la paix? Et c'est un peu contradictoire dans les mots de Donald Trump, durable et éternel. Ou bien, Natacha, est-ce que, comme souvent, le diable se niche aussi dans les détails?
Alors, je commencerai en disant que je me souviens très bien que nous étions ici même le 7 octobre 2023 dans cette salle quand nous avons appris ce qui était en train de se passer en Israël. Oui. Et savoir que aujourd'hui, peut-être 2 ans après, les otages qui restent vont être libérés, savoir que les Palestiniens petit à petit commencent à revenir dans le nord de Gaza et vont peut-être enfin ne plus vivre sous les bombes, on ne peut que s'en réjouir. Et on mesure l'émotion qu'il doit y avoir quand on voit les images de ces jeunes Palestiniens, par exemple, criant leur joie. Il y a quelque chose de l'espoir qu'on ne voudrait pas doucher. Pour autant, il y a plusieurs questions à se poser. La première, je dirais, c'est de savoir pourquoi Donald Trump y est parvenu et qu'est-ce qui peut lui être réellement attribué. Il faut tout de même rappeler que si Benjamin Netanyahou a pu mener cette guerre, c'est parce que les États-Unis l'ont laissé mener cette guerre. Donc qu'aujourd'hui Donald Trump y mette fin est tout à fait positif, mais il choisit de le faire à ce moment, il avait choisi de ne pas le faire avant. Et évidemment que ça, il a tordu le bras à Benjamin Netanyahou en jouant. Alors c'est après. Donald Trump est sans doute, il faut analyser quelle est la base idéologique de ses soutiens, et c'est là où il y a une dimension très intéressante, c'est-à-dire que Donald Trump s'est fait élire, certes, par des évangéliques, à côté de qui Smotrich, le ministre d'extrême droite israélien, est un tendre et quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais il a aussi été élu par une base qui est anti-néoconservatrice. Et là, c'est cette dimension-là qu'on voit. Cette dimension se traduit donc dans un refus du messianisme qu'on voit chez les néoconservateurs, mais aussi dans cette espèce d'obsession du business. Est-ce que ça peut marcher? Ça marche à court terme. Le problème est dans les détails de ce plan. Par exemple, des phrases qui consistent à considérer que pour aller vers la paix, il va falloir travailler sur le dialogue interreligieux. Ce qui est une drôle de manière de prendre le problème, voire qui passe totalement à côté du problème. La question, en fait, qui va se poser est celle de la souveraineté des Palestiniens, souveraineté politique qui en fait est largement évacuée de ce plan. Donc la paix, oui, le retour des otages, la fin des bombes, oui, peut-être une espérance pour une jeunesse palestinienne qui n'en a pas depuis bien avant le 7 octobre 2023. Mais pour que ça se transforme en une paix durable, il y a un moment où il va falloir admettre que la souveraineté politique est un élément essentiel et que ça passe notamment par le territoire de Cisjordanie.
Oui, j'allais le dire. Si on dézoome, il y a Gaza, mais il y a aussi la Cisjordanie et il y a tout de même aussi Jérusalem-Est. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a salué ce plan de paix avec beaucoup de mots positifs et que tout le monde a compris que c'est comme ça qu'il fallait parler à Donald Trump, mais en rappelant que Jérusalem-Est était la capitale historique et pour toujours des Palestiniens. Gilles.
Bon, moi aussi, je me souviens de du 7 octobre 2023 où nous étions ici, de l'effroi qui nous avait saisi. Et donc, évidemment, le premier sentiment est un sentiment de soulagement, d'accueillir une bonne nouvelle dans un monde qui n'en compte pas tant. Cette bonne nouvelle est, je crois qu'il faut le dire avec lucidité, un succès américain. C'est pas seulement un succès pour Donald Trump, c'est un succès de Donald Trump. Il avait très mal commencé dans ce dossier avec sa proposition à la fois saugrenue et indécente de la Riviera sur Gaza sans les Palestiniens. Il poursuit mieux en ayant contribué, en suivant de près et en s'étant impliqué dans ces négociations. Ce succès, je crois que Natacha l'a dit, il faut essayer d'en comprendre à la fois les raisons et les limites. Sur les raisons, il y a un point qui n'a pas encore été évoqué, ce que j'appellerais le théorème de Barnavi, du nom de l'ancien ambassadeur et du grand intellectuel israélien, qui, depuis des mois, explique que la situation au Proche-Orient ne pourra être résolue sans qu'elle soit imposée de l'extérieur. Et je crois que ça, c'est la première illustration que l'on a. Après, pourquoi cet extérieur est-il un extérieur américain ? Je crois que ça tient beaucoup à ce que, dans cette région-là, ce n'est pas le cas, on le voit en Ukraine, ce n'est pas le cas dans les relations avec la Chine, dans cette région-là, la puissance américaine est sans pareil. Et j'ajoute un troisième élément, c'est qu'il y a eu une évolution de la situation, et notamment des pays arabes. Et je crois que Donald Trump a compris qu'il devait tordre le bras, pour reprendre l'expression de Natacha, de Benjamin Netanyahou, pour les embarquer et pour sauver les accords d'Abraham. Et ce qu'il a fait tordre le bras de Benjamin Netanyahou de manière spectaculaire, lorsque il lui a imposé d'appeler l'émir du Qatar pour s'excuser de la frappe israélienne.
Dont on mesurera sûrement bientôt et plus tard dans l'histoire l'importance dans tout le processus qu'on est en train de vivre actuellement.
Oui. Voilà. Peut-être dernier point, avec là une interrogation, dans cette évolution de la situation, l'évolution de la situation des positions au-delà des pays arabes, de la pression internationale, le plan de paix franco-saoudien, les différentes reconnaissances ont pu aussi peser. J'en viens et je termine par les limites ou les questions. D'abord, évidemment, ce n'est pas un accord sur la paix qui a été signé. C'est un accord sur la première étape qui est le cessez-le-feu, la libération des otages et la libération des prisonniers politiques, des prisonniers palestiniens. Pas seulement politiques. Le premier doute, je crois, est un doute sur la continuité, sur la capacité de continuité des États-Unis à assurer à la fois un équilibre entre les parties et surtout d'assurer le suivi de la mise en œuvre étape par étape de ce plan de paix, chacune de ces étapes étant une occasion ou un risque de trébucher. Et puis, dernière phrase, par l'implication directe des parties prenantes, les Israéliens et les Palestiniens, avec sans doute une autorité palestinienne renouvelée et sans doute aussi bientôt des élections et peut-être un nouveau pouvoir en Israël.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Allez, on ouvre notre page française. Hier soir à 22h, Emmanuel Macron a fait savoir que son choix s'était porté sur...
Ça y est, l'annonce vient de tomber. À l'instant, Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Sébastien Lecornu qui avait démissionné lundi. Enfin, un déblocage de la situation après des heures d'attente.
Oui, des heures et un peu de retard hein, par rapport aux 48 heures qui avaient été prévues initialement par l'Élysée dès mercredi soir. Un peu plus de deux heures après la fin de ce créneau de 48 heures. Oui, c'est donc Sébastien Lecornu qui est reconduit. Hein, l'épilogue, on va dire, d'une très très longue soirée où les choses ont été beaucoup plus compliquées que prévu.
Alors, plus compliqué que prévu, c'est le moins qu'on puisse dire. Déblocage, dit notre consoeur de la rédaction de France Inter. Sébastien Lecornu, démissionnaire lundi, mission terminée, achevée le mercredi, puis le vendredi remissionné. Gilles, j'aime beaucoup Renaud. C'est quand qu'on va où ?
Je voudrais partir non pas d'une hypothèse, parce qu'elle serait hautement improbable, mais d'un exercice de pensée. Imaginons un citoyen français dont la source exclusive d'information serait l'écoute du grand face-à-face de France Inter. Il nous a quittés samedi dernier. Sébastien Lecornu était Premier ministre. Il nous retrouve, Sébastien Lecornu est Premier ministre.
Stabilité, grande stabilité.
Il nous a quittés, il n'y avait pas de gouvernement. Il n'y a pas toujours pas de gouvernement. Il nous a quittés, la question des retraites était la question centrale. Elle l'est toujours. Il nous a quittés sans savoir si les conditions seraient réunies pour une non-censure. Elles le sont toujours. Et donc, ce citoyen imaginaire dans cet exercice de pensée peut avoir le sentiment d'une situation qui n'a pas bougé. En réalité, elle a beaucoup bougé. Et si je devais, on en pourra même faire le bilan de cette semaine, parce que Thomas a évoqué quelques-uns des épisodes, il y en a eu beaucoup, c'est une semaine, je crois, qui sera une semaine importante pour la reconfiguration de la vie politique. Mais si on essaye simplement de caractériser le moment, en fait, je n'utiliserai qu'un seul mot, qui est le mot de confusion. Et c'est un mot qui peut paraître banal, mais dont la diversité des significations fait que je crois qu'il peut éclairer ce moment. Le premier sens le plus courant, c'est la confusion de la situation, c'est-à-dire une situation qui est tout sauf claire. Pourquoi Sébastien Lecornu a-t-il été renommé après avoir été démissionné ? Avec qui va-t-il gouverner ? Que veut-il faire ? Donc, confusion de la situation. Mais il y a un deuxième sens, une deuxième signification à ce mot, c'est la confusion des pouvoirs, c'est-à-dire des pouvoirs qui ne sont pas séparés. Et la réunion qui s'est déroulée hier autour d'Emmanuel Macron en est une illustration, en réunissant non pas l'ensemble des forces politiques, mais celles qui pouvaient se retrouver autour d'une non-dissolution. Il s'est placé comme un chef de la majorité et pas comme un chef de l'État. Confusion des pouvoirs. Et puis, troisième signification de ce mot de confusion, c'est la confusion de l'esprit. C'est-à-dire une pathologie où l'esprit entend quelque chose et fait autre chose. Et on entend, je crois que c'est difficile de ne pas l'entendre, une opinion qui ne s'accorde pas sur grand-chose, si ce n'est sur la nécessité d'un changement qui passe au moins symboliquement par ce que Emmanuel Macron lâche une grande partie de son pouvoir. Et cette demande est formulée jusque dans le propre camp d'Emmanuel Macron par le secrétaire général de son propre parti. Et donc,
qui ne le comprend plus.
Le résultat de cette demande de changement, c'est la continuité, c'est le troisième élément, confusion de l'esprit. Donc, si je dois résumer d'un mot, confusion, confusion de la situation, confusion des pouvoirs, confusion de l'esprit.
Après, c'est quand qu'on va où, c'est pas facile de dire de Renaud. Il y a un autre film que j'aime beaucoup des années 80, Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir.
Très joli. Pour ma part, je m'étais demandé pourquoi Emmanuel Macron avait choisi de faire entrer au Panthéon, tout à fait légitimement, Robert Badinter, mais avant Marc Bloch. Alors que les deux sont tout aussi légitimes, mais l'ordre pouvait se discuter. Et j'en ai conclu qu'il avait préféré un homme qui a fait voter une loi contre la volonté majoritaire, c'était pour la bonne cause à l'époque, et qui donc a eu raison au regard de l'histoire, plutôt qu'un homme qui a analysé l'effondrement du pays par la faute d'élites politiques en déliquescence. C'est vrai que pour ce qui est du discours, c'était plus facile de trouver le lien. En 2018, au moment où les gilets jaunes avaient manifesté toutes les semaines, je me souviens avoir écrit des textes qui expliquaient que, selon moi, Emmanuel Macron n'avait pas de culture démocratique. J'avais déclenché là un tollé, c'était scandaleux de douter de cela. Et je pense que c'est réellement le problème. Et que cela apparaissait déjà dans sa façon de, d'effacer les corps intermédiaires, de concentrer l'ensemble de la décision sur lui-même. Nous aboutissons à une forme d'absurdité aujourd'hui qui découle de cela, pas seulement de cela. Il y a une crise politique beaucoup plus large et on a toujours tort de faire peser la responsabilité sur un seul homme. Mais le fait est qu'une constitution sert à traduire la volonté majoritaire du peuple de la façon à la fois la plus efficace et la plus juste. Il peut y avoir des moments où on est plus dans l'efficacité, d'autres où on est plus dans la justice et la justesse. Mais là, avoir réussi l'exploit de tordre la constitution de toutes les manières possibles, jusqu'à aboutir, souvenez-vous, à avoir nécessairement les CRS devant le Conseil constitutionnel au moment des votes sur la, enfin, du 49-3 sur la réforme des retraites, du 49-3 et du 47-1, puisque nous apprenons tous les articles de la Constitution depuis 2 ans. Donc, avoir abouti à tordre cette constitution est un exploit assez inquiétant. Je crois qu'en fait, ce qui est en train de se passer est problématique parce que, outre l'aspect crépusculaire, outre le fait que nous avons, encore une fois, des forces politiques qui sont tout aussi responsables qu'Emmanuel Macron par le jeu des lignes rouges qu'on voit...
Tout aussi responsable ou tout aussi irresponsable.
Oui, c'était une façon de tourner la phrase. À part cela, je pense que ce qui est très inquiétant, c'est l'affaiblissement généralisé de l'ensemble des institutions de la République, et donc le fait que ce qui semblait quelque chose d'impensable, à savoir les appels à la démission, les appels à la destitution, devient aujourd'hui quelque chose de parfaitement banal. Beaucoup ont parlé cette semaine de l'élargissement de la fenêtre d'Overton, et je pense qu'en effet, on arrive à quelque chose qui fragilise l'ensemble de la structure démocratique française.
Gilles, un mot là-dessus.
Oui, un mot sur ce par quoi Natacha a commencé, c'est-à-dire l'absence de culture démocratique du président. Je ne le dirais pas exactement de la même manière, parce que je crois qu'il a eu une idée de la démocratie en 2016-2017 autour de l'horizontalité. Le problème est qu'il a eu une pratique, dès le lendemain de son élection, qui était une pratique de très grande verticalité et d'extrême concentration de pouvoir. De la même manière, il a eu, lors de sa première élection, une réflexion autour de la déstructuration du clivage gauche-droite comme clivage central pour lui substituer le « en même temps », on va dire. Le problème est que cette déstructuration ne s'est pas limitée au clivage gauche-droite, mais que ça a été peu à peu, étape par étape, une déstructuration de l'ensemble de la vie politique, de l'ensemble des partis politiques, et l'étape de cette semaine a été la déstructuration jusque de son propre camp et même de son propre parti, parce qu'il est quand même singulier que le secrétaire général du parti du président commence son intervention au journal de 20h en disant qu'il ne comprend plus le président de la République. Donc, je crois que dans les faits majeur de cette semaine, si on essaie de prendre du recul, il y a cette déstructuration du camp présidentiel lui-même, et puis, je termine par là, ce qui s'est passé du côté des Républicains, qui n'est pas seulement le fait que Bruno Retailleau est trébuché en surréagissant à la nomination de Bruno Le Maire, cette surréaction conduisant à la crise gouvernementale et elle-même à l'éviction, par un effet retour de Bruno Retailleau du futur gouvernement. Je crois que l'élément le plus important est que les Républicains ont penché encore davantage, je ne dis pas encore qu'ils sont tombés, mais ils ont penché encore davantage du côté du Rassemblement National en appelant certes dans une législative partielle, mais ça a beaucoup de valeur symbolique à voter pour un candidat Ciotti-RN contre un candidat socialiste.
Et le RN a appelé officiellement cette semaine à un pacte de gouvernement si la majorité absolue, après une éventuelle dissolution, porterait le RN au pouvoir avec l'appoint des Républicains. Les Républicains ce matin, d'ailleurs, qui ont affiché leur divergence sur la participation ou pas au gouvernement. Il y a deux lignes, la ligne Retailleau, qui refuse de participer au gouvernement, et une autre ligne, plus Wauquiez, plus favorable à la participation au gouvernement. Natacha.
Je prolonge sur cette question de la culture démocratique, parce que derrière, il y a une réflexion politique de fond. Emmanuel Macron est l'aboutissement d'un système qui, petit à petit, a fait sortir des pans entiers du réel, du débat démocratique. Il est l'aboutissement de cette vague de dérégulation néolibérale qu'on a vue apparaître à la fin des années 1970 et dans le courant des années 1980, et qui se traduisait par une fausse alternance entre une droite de gouvernement et une gauche de gouvernement. À partir du moment où tout cela a été fragilisé, notamment par l'émergence du Front National, qui traduisait une colère des citoyens contre ce système dont ils ne voulaient pas, eh bien, il y a eu une fusion entre les néolibéraux de droite et les néolibéraux de gauche. Mais tout cela a toujours été fait pour perpétuer un système qui est un système sur lequel, qui va à l'encontre des intérêts des classes populaires et des classes moyennes, qui donc se détachent petit à petit de la démocratie. Et c'est en cela où ça dépasse le simple destin d'un homme et ses particularités psychologiques. Et c'est un mouvement politique structurel. Si on passe à côté, on ne comprend pas comment lutter contre cela.
J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur le destin d'un homme, pas le même, pas Emmanuel Macron, c'est Sébastien Lecornu quand même en tant que Premier ministre. Si on se projette un peu sur les jours qui arrivent, il a quand même annoncé que sa mission était terminée, qu'il était un moine soldat. D'ailleurs, ceux qui savent écouter se sont dit que peut-être il accepterait par loyauté d'être nommé à nouveau, et ça a été le cas hier soir. Et puis, il y a une question qui va occuper les prochaines heures, parce qu'il y a un parti qui peut décider de faire tomber Lecornu d'une seconde à l'autre, c'est le Parti Socialiste, avec un sujet majeur qui est celui de la réforme des retraites.
Moi, ce que je crois, de là où je suis, je ne suis pas là pour faire des annonces sur la retraite et pour cause, j'ai démissionné, mais donc j'expédie les affaires courantes. Mais je vais vous dire, à la fois c'est une source de blocage, regardez la fin du conclave, CFDT, CFTC, MEDEF, c'est une source de blocage au Parlement, on aura bien du mal à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un débat.
Donc ce que vous nous dites ce soir...
J'ai souvent considéré que le débat démocratique pour les retraites serait la prochaine présidentielle, et il aura lieu, parce que de toutes les évidences, il faudra continuer à travailler sur la question des retraites à l'avenir. Certains diront capitalisation, d'autres diront système par points, d'autres diront retour
en arrière.
Mais là,
tout de suite, là, tout de suite.
Mais je vois bien que, en tout cas, je l'ai dit au président de la République, il faudra trouver un chemin pour que le débat ait lieu sur la réforme des retraites.
C'était mercredi à 20h. Sébastien Lecornu, à ce moment-là, n'était plus Premier ministre. Il l'est à nouveau, donc les propos qu'on vient d'entendre sont encore plus précieux parce qu'ils posent la question de cette fameuse suspension ou pas de la réforme des retraites. Gilles, est-ce que c'est ça qui peut permettre au gouvernement de tenir au moins jusqu'à la fin de l'année?
Je dirais que, si j'y reviendrai après, c'est le nœud gordien. Sébastien Lecornu vient de dire qu'il faut trouver un chemin pour que le débat ait lieu. C'est pas seulement pour que le débat ait lieu. En l'occurrence, il faut que le débat débouche et qu'il débouche dans un certain sens. Si on essaye de déplier de manière la plus froide possible les arguments sur les coûts et les bénéfices de la suspension d'une telle réforme. Dans les coûts, il y a évidemment un coût pour Emmanuel Macron lui-même qui a investi une grande partie de son capital politique de ce second quinquennat pour cette réforme. Et non seulement ce serait évidemment une défaite, mais ce serait plus que ça, ça priverait son second mandat de toute utilité. C'est-à-dire que c'est la seule réforme emblématique de ce mandat. Mais au-delà d'Emmanuel Macron, pour le pays, il y a, si on analyse, on se concentre d'abord sur les coûts, il y a un coût budgétaire que l'on ne sait pas exactement chiffrer parce que ça dépend des paramètres de cette suspension, mais qui est un coût pour 2026. Et si on veut être cohérent, une suspension, c'est jusqu'à l'élection présidentielle, donc un coût pour 2027. C'est en tout cas plusieurs milliards d'euros à un moment où on est plutôt à chercher à en économiser. Il y a un coût financier que l'on sait moins chiffrer encore, qui est le risque potentiel que les grands fonds d'investissement, qui sont ceux qui financent notre dette, qui l'achètent, regardent, et qui regardent d'abord la plus grande masse de dépenses qui est la retraite nous fasse payer plus cher le financement de cette dette. Et puis, enfin, il y a un risque réputationnel, même si le critère le plus important est celui de l'âge effectif du départ à la retraite. Et là, les écarts entre la France et ses voisins sont plus limités. La France serait le seul pays à revenir en arrière sur un recul de l'âge légal. Et puis, il y a les bénéfices. Je le dis juste d'un mot.
Allez-y.
Les bénéfices politiques, je n'y reviens pas. Évidemment, ils sont symétriques de ceux que j'évoquais. Mais il y a aussi des bénéfices économiques. C'est le bénéfice de la stabilité et de la visibilité. On sait quel a été le coût de la dissolution, qui a été pas seulement un coût politique, qui a été un coût en milliards d'euros aussi, qu'on a payé en taux d'intérêt et en croissance ralentie. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut faire. Et ce nœud qu'il convient de trancher.
Mais ce nœud, il est aussi hyper politique pour Emmanuel Macron, parce qu'en gros, soit il revient sur sa principale réforme, et en effet, il dilapide l'héritage qu'il voulait maintenir, soit c'est la dissolution avec le risque de l'arrivée du RN au pouvoir. Donc il est face à un choix qui est quasi, j'ai pas envie de dire perdant-perdant, mais risqué-risqué.
Ah oui, c'est un choix dans lequel il n'y a pas de bonne solution. Oui. Mais il faut toujours revenir sur cette question des retraites, d'abord à ce qu'était le projet d'Emmanuel Macron à son arrivée en 2017. Gilles parlait de l'horizontalité. Il y avait d'autres choses intéressantes chez Emmanuel Macron à ce moment-là, et en particulier cette idée d'une réforme universelle, plus juste, plus lisible, qui permettait de redynamiser le pays. Alors, il y avait deux, trois éléments qui ne collaient pas dès le départ. Par exemple, le fait qu'il ait affirmé pendant sa campagne que un point vaudrait un point dans cette réforme, ce qui commençait déjà à donner des usines à gaz, par exemple, les danseuses de l'opéra, qui faisait remarquer que ça ne collait pas pour leur métier, etc. Mais tout de même, cette réforme passait. Elle fonctionnait, elle était majoritaire. Et c'est la demande d'âge pivot, le fait que Édouard Philippe ait insisté pour ajouter un âge pivot qui était absurde dans le cadre d'une réforme à points, qui a torpillé tout cela. Il faut toujours se souvenir de ça, parce qu'en fait, nous avons un problème avec cette question des retraites. C'est que c'est un sujet qui ne peut pas et ne doit pas être pensé tout seul, qu'il y ait question de justice, et que c'est cela qui n'a pas été pris en compte dans la réforme nouvelle formule, qui en fait est une réforme qui collait à ce dogme d'un âge pivot. Ensuite, parce que il est vrai qu'il y a toujours une incompréhension du système par beaucoup de Français qui croient qu'ils cotisent pour leur retraite future alors qu'ils payent dans le cadre d'un équilibre entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités, mais que ça n'est pas suffisamment visible. Et en fait, également parce que nous payons des décennies de discours parfois anti-travail et même anti-production d'une certaine gauche, et par le discours totalement punitif d'une certaine droite, parce que Emmanuel Macron, par ses différentes volte-face, a durablement abîmé le sujet, et enfin parce que le système tel qu'il est n'aide pas à financer l'économie française. Donc tant qu'on ne prendra pas tous ces problèmes ensemble, eh bien, on sera condamné à ne parler que du sujet des retraites, alors qu'il doit être relié à l'ensemble des impératifs de production dans ce pays.
Merci à tous les deux de nous avoir éclairés. Ça tombe bien, on va parler des Lumières. Place au débat du Grand Face-à-Face.
Le Grand Face-à-Face, le débat.
Bon, bonjour Antoine Hilti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, un historien à Blois, au rendez-vous de l'histoire avec nous, et pas l'un des moindres. Vous êtes professeur au Collège de France, directeur de recherche à l'EHESS. Vous êtes spécialiste du XVIIIe siècle. Vous avez travaillé sur les salons, lieu de sociabilité et de mondanité à Paris durant ce siècle. Vous avez aussi étudié, et c'est vraiment génial, la naissance de la célébrité à la même époque. Et vous revenez avec un livre très original, très fascinant, sur l'un de vos grands thèmes de recherche, les Lumières. Son titre, L'illusion d'un monde commun, aux éditions Flammarion. Mais si ce travail est original, c'est qu'il retourne la caméra, comme on pourrait dire, au cinéma, et plutôt que de lire encore et encore les philosophes des Lumières, vous suivez des Tahitiens qui débarquent dans notre monde, dans le monde des philosophes des Lumières. Vous allez nous dire comment va se passer la rencontre, et surtout ce qu'elle dit de la difficulté à penser l'altérité culturelle. Mais avant cela, j'aimerais vous emmener au Panthéon, où ce jeudi, Robert Badinter y a fait son entrée. À cette occasion, Emmanuel Macron, président de la République, a prononcé ces mots.
Robert Badinter entre au Panthéon avec les Lumières et l'esprit de 1789, la promesse accomplie de la Révolution. Robert Badinter entre au Panthéon avec les principes de l'état de droit une certaine idée de l'homme, inséparable de l'idéal républicain.
Robert Badinter entre au Panthéon avec les Lumières et l'esprit de 1789. Comment est-ce que l'historien des Lumières et de leur héritage, votre cher au Collège de France, s'appelle l'histoire des Lumières, 18e, 21e siècle, entend-il ces mots? Que disent-ils de notre temps présent, de son rapport, peut-être fantasmé, aux Lumières du 18e siècle? Et puis, si au passage, votre réponse peut permettre de définir simplement ce que sont les Lumières, ce sera parfait.
Alors, ça fait beaucoup de choses. D'abord, de manière très concrète, Robert Badinter, au Panthéon, a été installé dans la crypte des révolutionnaires, à côté de l'abbé Grégoire, nous sommes ici à la bibliothèque de l'abbé Grégoire, à côté de Monge et à côté de Condorcet, qui était une des grandes admirations intellectuelles de sa vie. Et de fait, Badinter, on ne le sait pas toujours, mais c'est énormément toujours réclamé des Lumières et de la Révolution. Pourquoi ? Parce que l'esprit de 1789, c'est l'esprit de l'affirmation politique de l'égalité des droits. Et l'égalité des droits, c'est évidemment le grand combat politique et humaniste de Robert Badinter. Donc on pourrait en prendre plein d'exemples, juste en donner un, c'est que 1791, donc 2 ans après la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'émancipation des Juifs de France qui obtiennent la citoyenneté active après des siècles de persécution. Et évidemment, Robert Badinter, qui a écrit sur l'émancipation, c'était un sujet qui lui était extrêmement familier et qui était évidemment important. Donc en fait, cet héritage de la Révolution et surtout du grand combat humaniste pour l'égalité des droits, au fond, a inspiré des combats plus tard pour la justice de Badinter. Il a écrit une biographie de Condorcet. Il avait avec sa femme, Elisabeth Badinter, il avait une immense admiration pour Condorcet. La biographie s'appelle « Un intellectuel en politique », donc il projetait aussi quelque chose. La question, c'était comment un intellectuel peut être fidèle à ses valeurs, à ses principes, y tenir bon, c'est une grande expression, tenir bon dans les aléas de la vie politique. Évidemment, il y avait quelque chose là qui renvoyait à sa propre trajectoire. Alors, Condorcet, c'était un acteur de la Révolution, mais avant cela, c'était un philosophe des Lumières, c'était un mathématicien, c'était un savant, et qui a mené beaucoup de combats pour l'abolition de l'esclavage, etc. Mais et donc, ça nous pose la question de... La question que vous posiez à l'instant, alors c'est quoi les Lumières? Alors rapidement, c'est compliqué, les Lumières, tout le monde le sait, c'est un grand mouvement intellectuel qui a bouleversé l'Europe, toute l'Europe, hein, pas seulement la France, au XVIIIe siècle, qui est en fait un mouvement complexe, qui est un mouvement pluriel, qui est un mouvement hétérogène. Donc si on voulait, si je devais le résumer en une phrase, je dirais que c'est l'aspiration à l'émancipation par le savoir, c'est-à-dire l'idée que la diffusion des connaissances, non pas simplement dans les milieux intellectuels et savants, mais dans l'ensemble de la société, va permettre aux individus de penser par eux-mêmes, de développer un esprit critique, de devenir plus autonome, et la conviction, qui était celle, par exemple, de Condorcet, que cette instruction, cette diffusion du savoir va rendre les sociétés plus heureuses et les plus justes et les individus plus heureux. Alors, là, depuis 2 siècles, on réfléchit pour savoir si c'est le cas, mais en tout cas, c'est cette aspiration.
Ce qui est intéressant aussi d'en parler aujourd'hui, à la fois via l'entrée de Badinter au Panthéon, et puis plus largement de parler des Lumières aujourd'hui, c'est qu'elles sont, je crois, attaquées, notamment aux États-Unis. J'aimerais quand même avoir votre point de vue là-dessus. On parle beaucoup de Lumières obscures, Dark Enlightenment aux États-Unis. C'est un mouvement qui monte récemment, sous la plume d'un blogueur, Curtis Yarvin, très écouté à la Maison-Blanche, par J.D. Vance, le vice-président, dit-on. Nick Land également, on a beaucoup parlé. C'est quoi ces lumières obscures et que disent-elles, peut-être, selon eux, d'une promesse non réalisée des lumières du XVIIIe siècle?
Alors, c'est un concept très particulier qu'effectivement, Curtis Yarvin, qui est ingénieur de formation, qui fait partie de ces milieux de la tech californienne et qui est devenu un des grands inspirateurs de l'extrême droite américaine, a développé. Alors, il le développe un peu comme une provocation, oui, parce que c'est une transgression. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, Dark Enlightenment, les lumières obscures, mais c'est une manière, au fond, de récupérer une espèce de promesse révolutionnaire avec l'idée de renverser le monde actuel, mais en retournant complètement ce qui était justement la promesse d'émancipation des Lumières, puisque là, Curtis Yarvin, il plaide pour une société non démocratique, pour une société inégalitaire, il assume des positions qui sont des positions racistes, Donc on pourrait dire c'est juste, c'est essentiellement une provocation. Il y a une dimension provocatrice, une dimension ironique, presque sardonique, hein, dans l'idée de d'aller au fond salir, reprendre en salissant les idéaux de ses adversaires, c'est-à-dire des humanistes et de la gauche. Mais il y a plus que ça, je crois, parce que au fond il y a derrière une promotion inversé du savoir. J'ai dit que c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui est très écouté des milieux de la tech. Et là, on voit que c'est plus la science et le savoir, comme chez Condorcet, les connaissances, les lumières, comme facteurs d'émancipation démocratique, mais c'est au contraire la technologie comme promesse d'une société hiérarchisée et donc d'un progrès, mais qui est celui d'une société qui va être au fond totalement dominée. Ben, Curtis Irving, par exemple, il dit on n'a pas besoin de démocratie parce que la société doit être gérée comme une grande entreprise de la tech. Et donc là, on voit aussi, finalement, ça nous oblige à réfléchir sur l'ambiguïté de la question du savoir, du progrès, de la technologie, qui peut être retournée contre la démocratie.
Et d'ailleurs, pour boucler avec ce qu'on a raconté au début de l'émission dans le duel, c'est lui le premier à avoir parlé de Gaza Inc., une entreprise Gaza qui serait une sorte de laboratoire de ces lumières obscures ou sombres, les Dark Enlightenment, dont vous parlez. Alors on en vient à Tahiti, au XVIIIe siècle, avec ce livre vraiment foisonnant, et c'est un mot que j'emploie pas tout le temps parce que je pense qu'il est galvaudé, mais passionnant. Et là, je me permets de le dire. Gilles, ce livre, vous l'avez lu, je suis sûr qu'il vous a plu.
Je l'ai ouvert avec un certain scepticisme.
C'est bon signe, rassurez-vous.
Non, 300 pages sur Tahiti et la découverte de l'Europe. Et je l'ai refermé avec un grand enthousiasme. C'est un livre singulier, c'est-à-dire que c'est un livre qui prolonge un livre, le supplément au voyage de Bougainville, écrit par Diderot, qui lui-même prolonge un livre, Le voyage autour du monde de Bougainville. C'est un livre qui est à la fois une actualisation des connaissances sur le sujet et, Thomas l'a dit d'un mot, une inversion de la perspective. Parce que la question n'est pas seulement de savoir ce que la découverte des îles du Pacifique a produit en Europe, mais ce que l'arrivée des Européens et le voyage de quelques Tahitiens en Europe a produit et a produit notamment là-bas. Et donc c'est un sujet apparemment qui est lointain dans le temps, c'est une petite décennie à la fin du XVIIIe siècle et dans l'espace, mais qui en réalité pose la question intemporelle de l'universalisme. Et c'est ce en quoi ce livre est passionnant, parce qu'on y apprend beaucoup de choses et que ça fait réfléchir. Je voudrais poser une question. Donc on suit le parcours de ces quatre Tahitiens. Et vous dites, il y a un moment, il y a une question essentielle, page 194, qui est celle de leur retour par rapport à ce changement de perspective que vous évoquez. Et vous dites, c'est une épreuve théorique pour la philosophie des Lumières. Une fois initié au bienfait de la civilisation, l'autochtone va-t-il devenir ambassadeur zélé de la culture européenne ou retrouver la simple vie de la nature? Comment se résout cette énigme-là? Pour autant qu'on puisse la résoudre.
Alors, merci beaucoup. C'est une question, effectivement, qui est très intéressante parce que c'est une question théorique que les philosophes des Lumières se sont beaucoup posées. Et il y avait deux grandes réponses. Si on lit, on fait l'histoire intellectuelle des Lumières, il y a deux grandes réponses. Il y a celle, effectivement, des philosophes, des promoteurs de la civilisation qui rêvent de voir ces Tahitiens ayant été effectivement initiés à la culture et à la société européenne, c'est être des ambassadeurs de la civilisation. Et à venir, c'est un des grands thèmes du XVIIIe siècle. Il s'agit de civiliser au sens d'apporter les lumières, d'apporter et donc le savoir, la connaissance. Mais il y avait un autre discours à l'époque, qui est notamment porté par Jean-Jacques Rousseau et par d'autres, qui est cette idée que la supériorité de la nature est telle que des indigènes, à l'époque on dit des sauvages, confrontés à la société européenne, préféreront retourner vivre parmi leurs égaux. Et c'est le début, enfin c'est le frontispice en fait du dialogue sur du discours sur l'origine de l'inégalité de Rousseau. Et là, on a une série de cas qui permettent de trancher. Et notamment, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le cas d'un de ces Tahitiens qui lui a voyagé avec les Espagnols, qui revient à Tahiti, qui s'appelle Paotou, et il est pris dans un conflit de loyauté total entre d'un côté ces nouveaux amis espagnols, il a appris l'espagnol, il est habillé à l'espagnol, mais dès qu'il revient à Tahiti, il est repris aussi par sa famille, par ses amis, par les traditions et les coutumes locales. Et c'est une histoire, en fait, c'est une histoire tragique. C'est une histoire, vous l'avez vu, tout à fait pathétique, parce que en réalité, il n'arrive pas à choisir. Il y a une scène incroyable où il se dévêtit, il retire ses habits à l'européenne, il met en garde les autres Tahitiens contre les velléités impérialistes qu'il a très bien compris des Européens. Mais en fait, il se retrouve au fond isolé, avec un moment de solitude, parce que il n'appartient plus à aucune de ces deux sociétés. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres cas, cette situation évidemment presque désespérante de quelqu'un qui n'est pas un intermédiaire, mais au contraire isolé.
Je vous donne la parole, Natacha, mais on est à Blois. Une question sur les sources.
Oui.
Elles manquent beaucoup pour ces Tahitiens. Comment arrivez-vous à creuser cette question de la loyauté, de cette double loyauté, de ces problèmes presque psychiques que se pose ce Tahitien ?
Alors ça, c'est le grand défi général du livre, hein, sur un plan méthodologique, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de source tahitienne. Voilà. Donc, puisque la société tahitienne était une société de l'oralité, donc je le dis tout de suite, je n'ai pas retrouvé le récit autobiographique d'un de mes tahitiens.
Dans le plancher, donc, comme ça, voilà. Non.
Non, ça c'est le rêve, évidemment, mais non, je ne l'ai pas trouvé. Et donc, je travaille à partir de sources européennes. Donc j'essaye de raconter cette histoire du point de vue tahitien à partir de sources européennes. Et heureusement, on a quand même les sources européennes ne sont pas totalement, elles ne parlent pas tout le temps le même langage, elles sont hétérogènes, et il y a des sources qui permettent des récits qui souvent dormaient dans les archives ou ont été très peu lus, parce que c'est par exemple des journaux de bord des navigateurs ou des voyageurs, et qui racontent des scènes, et si on les lit de manière critique, par exemple cette scène qui raconte de manière très critique le départ de Paotou, eh bien on voit, en réalité, on peut saisir ce qui se joue, mais évidemment, c'est toujours fragmentaire. C'est pour ça que le livre est... Je ne joue pas du tout dans le livre le rôle du narrateur omniscient. Au contraire, j'essaye de mettre en scène la fragilité, les possibilités, mais aussi les limites du savoir historique.
Et en ça, c'est un livre qui interroge doublement le savoir. C'est un livre sur le savoir et qui interroge le savoir dans la construction de ce savoir.
Exactement.
Natacha.
Et oui, et pour prolonger cette question, parce qu'en effet, il y a une dimension mélancolique dans ce livre. On y retrouve les accents de Claude Lévi-Strauss à la fin de Triste Tropique, et on ne cesse de s'interroger sur la possibilité même, et c'est tout le cœur de votre livre, sur la possibilité même de comprendre une autre culture. Et c'est en effet, Thomas a raison de le souligner, un livre sur le travail de l'historien et sur sa capacité à se décentrer pour essayer de trouver non pas une objectivité, mais une honnêteté dans l'approche. Et il y a une dimension sur cette question du savoir qui est très intéressante, parce qu'il y a un objet que vous évoquez, c'est la carte de Tupaya. Donc un de ces Tahitiens, Tupaya, a accompagné les Anglais, Cook, et il a dessiné une carte des îles suivant ses propres connaissances. Et je voudrais que vous expliquiez ça, parce que nous sommes dans une période où il y a, par exemple, dans certaines universités progressistes américaines, une remise en cause de la science qui serait, par essence, raciste parce que émanant de la rationalité occidentale. Et en effet, cette carte a été remise en cause à l'époque par certains qui disaient, en gros, on n'y comprend rien, il a voulu faire croire qu'il connaissait les îles alors qu'il ne les connaissait pas, alors que c'est une autre façon de penser les distances et de penser le savoir.
Antoine Hilti.
Oui. Une phrase, qu'est-ce qu'elle dit, parce que votre titre, c'est l'illusion d'un monde commun. C'est qu'est-ce qu'elle dit de la réalité ou de l'illusion d'un monde commun.
Alors, d'accord, merci. Donc, ça fait plusieurs questions. Je vais essayer de tout rassembler. Donc, effectivement, alors cette carte de Tupaya, c'est un objet. Je suis très content qu'on en parle. C'est un objet extraordinaire. Donc, c'est effectivement. Donc, Tupaya était il était dépositaire des savoirs de navigation et des connaissances. Il avait des connaissances cartographiques et cette carte qu'il a réalisée avec Cook, en fait l'exemplaire qu'on a c'est un dessin de Cook, donc on ne sait pas s'il a copié une carte de Tupaya ou s'il a réalisé cette carte avec les indications de Tupaya, c'est une espèce d'objet scientifique hybride qu'est la rencontre entre les savoirs cartographiques des Anglais de cette époque, et donc l'idée notamment de faire des cartes, hein, longitude, latitude, etc., ce qu'on connaît bien, et les savoirs locaux de Tupaya, qui, lui, étaient, c'était des savoirs qui étaient des savoirs pratiques, qui étaient des savoirs oraux. Il n'avait jamais représenté la carte sous cette sa connaissance des îles sous cette forme. Et donc, ça donne un objet hybride et qui a, on peut en tirer plusieurs conséquences. La première, c'est qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire, la rationalité n'est pas un monopole européen. Il y a des éléments de rationalité qui sont transculturels et les cultures sont différentes, mais Tupaya savait très bien, et les Anglais ont mis du temps à comprendre, mais il savait très bien naviguer entre les îles. Il avait une connaissance très intéressante, très importante, il les a conduits jusqu'en Nouvelle-Zélande. Hein. Donc ça a été une chose importante. Donc, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est que la capacité qu'avait Cook et Tupaya de discuter, d'échanger et d'arriver à fabriquer cet artefact prouve que la possibilité de communication entre des cultures, la possibilité de créer du commun, de créer du partage, est possible sur la base justement de cette rationalité transculturelle. Alors là, ça rend effectivement optimiste. Mais pourquoi je suis quand même mélancolique à la fin? Parce que, cette carte, en fait, les Anglais n'en ont rien fait. Elle est restée dans les archives, elle a été oubliée, parce qu'elle était incompréhensible, parce qu'en réalité, selon le modèle strictement européen, cette carte ne veut rien dire. Et en fait, il a fallu, c'est seulement très récemment que des savants, des historiens de géographes ont réussi à comprendre son fonctionnement, parce qu'il fallait reconstituer la spécificité des savoirs polynésiens. Et du coup, ce moment de rencontre, ça a été un moment perdu. Ça a été un moment perdu parce que très vite, les Anglais ont disqualifié ces savoirs européens, de même qu'ils ont disqualifié la culture polynésienne. Et c'est pour ça que, pourquoi l'illusion d'un monde commun? Parce que, est-ce que la rencontre crée du monde commun? La rencontre, elle crée des moments de partage. Elle crée la possibilité d'un monde commun. Mais si on se situe dans la plus longue durée de ces voyages, c'est ce que j'essaye de montrer, au fond, ils n'arrivent pas à produire un monde commun. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils accueillent ces étrangers, c'est aussi le cas lorsqu'ils viennent à Paris ou à Londres, mais aussi donc ils les accueillent, mais ils les accueillent dans leurs différences. Ils les renvoient à leurs différences et ils n'arrivent pas véritablement à accepter de prendre au sérieux l'expérience spécifique qui est celle de ces Polynésiens. Et ça, c'est le cœur du livre. C'est pour ça, sans doute, qu'il a un ton un peu mélancolique. C'est que par rapport à l'idéal d'une commune humanité portée par les Lumières, on voit là la difficulté, peut-être même l'incapacité à produire véritablement un monde commun.
Ça raconte aussi l'incapacité de ce monde des Lumières de se décentrer.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, au fond, ça révèle que l'universalisme des Lumières, qui est malgré sa générosité, malgré son ambition de fonder une humanité commune, au fond, il reste un paternalisme. C'est toujours un paternalisme, c'est-à-dire qu'il avance drapé dans la certitude d'avoir justement d'être dépositaire du savoir, d'être dépositaire de la civilisation. Donc on accepte l'autre, mais on accepte l'autre à partir du moment où justement il va se civiliser, à partir du moment où il va accepter de jouer le rôle qu'on lui assigne, mais sans effectivement se laisser véritablement décentrer ou déstabiliser par la spécificité et l'expérience de l'autre.
Gilles, il y a une surprise dans votre livre.
Plusieurs.
Au moins une. Dont vous révélez l'existence dès le début, mais qui n'arrive qu'à la fin. Dans l'épilogue, et j'ai résisté pendant toute la lecture à sauter pour aller à cette surprise. Après donc 10 ans de travaux, alors que vous hésitez même à achever votre livre, vous finissez par partir à Tahiti où vous n'étiez jamais allé. Avec une question qui est: quelles sont localement les traces de ces voyages, de vos 4 personnages, et vous mesurez à quel point ces traces sont modestes, quand elles existent, qu'elles sont souvent récentes, et qu'elles sont souvent en rebond de travaux qui ont été réalisés par des historiens en Nouvelle-Zélande ou de la mémoire britannique. Et vous concluez en disant: leur aventure, à vos 4 personnages, n'est pas seulement une histoire polynésienne, elle est tout autant une histoire européenne. Est-ce qu'elle n'est pas d'abord et avant tout une histoire européenne quand on voit ces faibles traces locales ?
Antoine Hildy.
Alors, elle n'est pas une mémoire polynésienne, mais elle n'était pas non plus une mémoire européenne, puisque, au fond, personne ne connaissait en Europe cette histoire. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que il n'y avait pas jusqu'à très très récemment de mémoire en Polynésie de cette histoire. Et c'est vrai que longtemps je me suis posé la question de la légitimité que je pouvais avoir. Je ne suis pas polynésien, je ne parle pas le tahitien, je n'ai pas de lien avec Tahiti. Est-ce que j'étais le mieux placé, est-ce que j'étais légitime pour écrire cette histoire? Alors je crois que oui, c'est la conclusion du livre, c'est-à-dire je pense qu'il faut écrire l'histoire des autres. On peut le faire et il faut le faire avec beaucoup de prudence. Mais au fond, lorsqu'on écrit l'histoire, on écrit toujours l'histoire des autres. Sinon, on ferait inlassablement son autobiographie. Donc, de toute façon, on écrit toujours l'histoire des autres. Il faut le faire avec beaucoup de prudence. Et surtout, quand je suis allé effectivement à Tahiti, je me suis aperçu que cette histoire était mal connue, mais que les gens avaient envie de la connaître.
Natacha.
Il y a un autre épisode extrêmement intéressant dans ce livre, enfin, parmi tant d'autres. C'est le moment où le même Tupaia aborde en Nouvelle-Zélande avec Cook. Et là, les Anglais s'aperçoivent que les Maoris comprennent Tupaia. Et donc, ça implique, là aussi, une remise en cause des savoirs et peut-être la naissance d'un nouveau savoir chez les Européens. Sauf que vous montrez à un autre moment du livre que ce nouveau savoir et la façon d'appréhender cette culture va petit à petit déboucher aussi sur la classification des races qui n'existait pas au moment des Lumières.
Antoine Hilti.
Oui, en fait, ça existe pendant les Lumières. C'est toute l'ambiguïté, justement, l'ambivalence des Lumières. Alors, le moment de cette rencontre, la décennie que j'étudie, c'est en gros les années 1770. Et c'est aussi le moment paradoxal où les classifications raciales s'imposent dans la science européenne et où il y a une anxiété véritablement raciale qui devient de plus en plus importante dans les sociétés européennes. C'est le moment où, à Paris, on va mettre en place la police des Noirs, etc. Donc ça aussi, c'est une manière de penser l'ambiguïté de l'universalisme des Lumières, affirmation d'une humanité commune et première classification raciale.
Et des Tahitiens qui ne sont pas des Tahitiens en métropole.
Oui, c'est d'ailleurs que, en fait, on va essayer de les faire entrer justement dans ces classifications et dans ces nouvelles classifications. Et eux aussi, c'est très intéressant, ils vont être racialisés.
C'est-à-dire comment ?
Eh bien, c'est-à-dire que, par exemple, la question la couleur de la peau devient un enjeu fondamental pour penser la place d'Aotourou ou de Maï dans une justement dans cette humanité. C'est-à-dire que une des choses qui va expliquer le fait que le désintérêt très rapide qui s'exerce à leur égard, c'est justement ils ne correspondent pas aux stéréotypes de la beauté européenne.
Oui, on n'a pas beaucoup parlé de stéréotypes et de préjugés, mais c'est évidemment ça court tout au long du livre. J'ai une toute dernière question. Vous avez travaillé pendant des décennies sur les Lumières. Qu'est-ce que ces Tahitiens vous ont appris sur les Lumières ?
Eh bien, ils m'ont permis une des choses sur lesquelles j'avais beaucoup travaillé, mais sur un plan un peu théorique, qui était cette ambiguïté, cette ambivalence des Lumières dans le rapport à l'altérité, dans le rapport aux autres. Et c'est le cas de Diderot, c'est-à-dire que même chez Diderot, qui est le texte le plus anticolonialiste peut-être des Lumières européennes et des Lumières françaises, eh bien, il y a une incapacité à véritablement prendre au sérieux ce qu'a été l'expérience de ces Tahitiens. Et donc, de ce point de vue-là, ils sont un peu les laissés pour compte des Lumières. Et c'est sans doute pour ça que leur destin un peu tragique apporte une ombre sur cet idéal égalitaire dont on parlait au tout début de l'émission.
Une ombre sur les Lumières.
Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Antoine Hilti. Votre livre, L'illusion d'un monde commun, est à lire aux éditions Flammarion. Il est déjà en librairie. Je précise, félicitations que vous êtes aussi lauréat du prix littéraire Fondation Martine Aublet 2025. Félicitations à vous. Je pense que ce ne sera pas le dernier prix littéraire que ce livre obtiendra. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clatt était, comme d'habitude, à la préparation de l'émission. Yann Ozaman était aujourd'hui à la réalisation. Aujourd'hui, Julien Girard à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour les trois premiers épisodes de Élysée dans la tourmente, anatomie d'un exécutif en crise avec l'historien Jean Garrigue. Une conversation que vous pouvez déjà écouter en entier et en podcast sur l'appli Radio France. Après les journaux, vous retrouverez Pierre Judet de la Combe, Quand les dieux rôdaient sur la terre.